16 ans, ça fait quoi? C'est comment? Vous vous souvenez? Parfois, pas tous, c'est flou. On parle comment à 13 ans? On rêve de quoi? On sait quoi? Rien ou déjà beaucoup? Un sentiment de vie, d'urgence lointain qui fait ce que l'on est plus tard, peut-être.
Pascal Paradou.
Lucie a 13 ans et le monde n'a pas esquissé un geste pour elle. Voilà comment Bruno Luce raconte la vie de son héroïne dans son roman, premier roman. Et même l'enfer, c'est pas grand-chose. Bonjour Bruno Luce.
Bonjour.
Faut-il garder quelque chose de son adolescence pour écrire sur ce temps si particulier? Parce que 13 ans, c'est la sortie de l'enfance et c'est déjà le début de l'adolescence, en tout cas pas du tout l'âge adulte.
Je pense qu'on garde tous des souvenirs de notre adolescence, des souvenirs marquants, parce que c'est quand même une période qui va nous former, où on va, c'est la période des premières fois. Donc évidemment, c'est important à ce regard-là. Et il y a aussi ce dont vous parlez justement, l'idée qu'on est entre l'âge adulte et l'enfance. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie d'exploiter.
Vous avez des souvenirs de vos 13 ans, vous qui en avez le double, donc vous êtes un vieux.
Je suis un vieux, effectivement. J'ai des souvenirs de mes 13 ans, bien sûr, des souvenirs de collège, des souvenirs de découvertes culturelles, cinéma, livres, et des souvenirs de moments avec ma famille.
Mais avec un sentiment de dureté ou de douceur?
Je pense qu'à 13 ans, tous les sentiments sont décuplés. Et donc que quand on se prend un râteau à 13 ans, c'est la fin du monde, alors qu'on apprend à vivre avec par la suite, ce genre de choses.
Donc c'est un peu de nostalgie qui vous a amené à vous intéresser à une héroïne de 13 ans, parce que vous auriez pu raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme de votre génération.
C'est vrai, c'est un petit peu de nostalgie et aussi, comme je disais, exploiter les failles de personnes qui ont 13 ans, qui est un moment où on se livre totalement. Dans le cas de Lucie notamment, ce qui était intéressant avec ce personnage-là, c'est que c'est une adolescente, donc elle est en construction. C'est un moment de la vie qui est difficile, comme on le sait tous. C'est une jeune fille, ce qui rajoute une couche qui peut être difficile, parce qu'on sait que les hommes peuvent être difficiles. Et elle vient d'un milieu social qui n'est pas forcément aisé. Et donc, c'est...
Oui, elle vit dans ce qu'on appelle le zoo, c'est-à-dire une périphérie un peu déclassée de la région parisienne.
C'est ça, tout à fait, une banlieue anonyme.
Une banlieue anonyme, que vous ne nommez pas d'ailleurs dans le roman. Et elle est issue d'une famille séparée et métissée, puisque le père est d'origine arabe et a quitté le foyer en faisant croire à sa mère qu'il allait l'aimer pour l'éternité. Et l'éternité n'a duré que 4 ans et demi.
Effectivement.
C'est ce que vous racontez. Donc, situation un peu compliquée, mais pas tout à fait désespérée. Est-ce que vous avez eu un modèle pour ce personnage de Lucie?
Pas tout à fait un modèle. J'ai essayé de construire le personnage comme je voulais qu'il soit, c'est-à-dire que Lucie, c'est une bagarreuse, c'est une démerdarde, comme il est dit dans le roman. C'est quelqu'un qui se bat justement, qui cherche la lumière malgré tous les problèmes qui sont autour d'elle.
Et il y a des sentiments intemporels propres à cet âge, 13-14 ans, que vous avez connus, quelles rencontres qui sont décuplées, vous l'avez dit, ou est-ce que c'est l'évolution du monde qui finalement change le ressenti des adolescents, ce qui fait que mes 13 ans, les vôtres et ceux de Lucie ne peuvent pas se comparer?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que quand on est adolescent, évidemment, il y a des choses un adolescent des années 70 ou un adolescent des années 2010-2020 va également connaître. Voilà, la peur de l'amour, la peur de l'échec, l'école, ce type de choses, la relation avec les parents. Et à ça s'ajoutent évidemment des problèmes qui sont peut-être ceux de l'époque. Par exemple, dans le livre, Lucie, elle est confrontée au cyberharcèlement, ce qui est quelque chose que évidemment, un adolescent des années 70 n'a pas connu.
Ah bon ? En tout cas, elle est à la fois rêveuse et dure, victime et révoltée, jamais soumise et toujours bagarreuse. C'est un trait de personnalité de l'ensemble des adolescents que vous avez pu observer ou que vous voyez. Là, je m'adresse pratiquement aux journalistes sociologues, ou est-ce que c'est vraiment le cas particulier de cette Lucie ?
Je pense que c'est le cas particulier de cette Lucie, parce que pour prendre mon exemple, j'étais pas du tout un adolescent bagarreur, démerdard, c'était pas du tout moi.
Donc c'est elle.
C'est elle, tout
à fait. Et c'est pas le portrait d'une génération au travers de cette jeune fille.
Non, c'est le portrait d'un personnage, Lucie, 13 ans, dans cette banlieue, qui est soumise à ces problèmes-là.
Et qui va lire Rimbaud.
Qui lit Rimbaud parce qu'une professeure lui a donné une saison en enfer, en se disant que ce serait peut-être une bonne idée parce que Rimbaud est un écrivain qui peut plaire aux adolescents. Bon, Lucie le lit un peu pour lui faire plaisir. C'est pas forcément le type de littérature qui lui plaît.
Mais elle répond à la prof en lui rendant le livre. C'était bien, mais j'ai pas tout compris. Et je trouve ça assez magnifique de penser que la lecture peut rendre un peu heureux, sembler donner l'idée de la beauté ou du bien, même si on ne comprend pas tout, parce qu'il me semble qu'il y a toujours des obscurités dans l'autre, dans la lecture, dans le savoir, dans la culture.
Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, parce que pour moi, l'écriture, la littérature, c'est avant tout une musique. Et on peut accéder à cette musique sans pour autant comprendre chacun des mots ou chacune des idées qui sont déployées. Et c'est pourquoi c'est aussi intéressant parfois de relire un livre 10 ans plus tard et d'essayer de re-entendre la même musique qu'on avait écoutée la première fois.
Mais c'est pas toujours la même musique.
C'est pas toujours la même musique.
De la beauté de la lecture, même si l'on ne comprend pas tout, peut-être parce que l'on ne comprend pas tout, cette semaine va se dérouler la 6e édition de la Nuit de la Lecture. Ce sont quelques 5000 événements dans des médiathèques, bibliothèques, musées ou autres lieux de culture, en France bien sûr, mais aussi dans une trentaine de pays, donc ailleurs. La Nuit de la Lecture en France et au Congo. Bonjour Anna Daza.
Bonjour.
Vous êtes chargée de programmation à l'Institut français de Brazzaville. Et au diapason du mot d'ordre de cette édition, aimons encore, aimons toujours. Est-ce que ça cause à Brazza cette formule ?
Alors, c'est une thématique qui touche, je pense, tout le monde et particulièrement les artistes, hein, puisque ça parle de passion, d'expression. Et c'est vrai que cette année, on était très heureux d'organiser les nuits de la lecture autour de cette thématique.
Et la bibliothèque de l'Institut est prise d'assaut pour cette nuit de la lecture, mais aussi en général, les Congolais qui viennent vous voir aiment lire ?
Les Congolais sont des vrais lecteurs et il y a beaucoup aussi d'auteurs congolais. Et c'est une thématique qui plaît beaucoup et à l'Institut français, on accueille beaucoup de gens à cette occasion.
Et s'il y a beaucoup d'écrivains congolais, il y en a un nouveau depuis l'an dernier avec Fan Atiki, qui est donc la star de cette édition. Fan Atiki qui a remporté le prix Voix d'Afrique organisé par RFI et Jean-Claude Lattès avec son roman Cave 72, et ce sera l'occasion d'une rencontre, je crois.
Exactement, il viendra nous présenter donc son roman Cave 72, et puis ça sera l'occasion pour le public de le rencontrer. Il pourra revenir aussi sur toute sa carrière d'écrivain. Et c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé dans la construction de cette édition, puisqu'il fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Stylobique, qui est un collectif de slameurs et de comédiens. Et il nous a aidé à organiser un concours de poésie, notamment.
Vous avez organisé un concours aussi avec un autre lauréat de RFI ? C'est Jean d'Amérique.
Exactement, Jean d'Amérique qui sera là en février et qui dispensera un atelier d'écriture poétique.
Alors, qu'est-ce qui se passe exactement le 21 janvier à Brazza ? Si je suis à Brazza, je vais assister à quoi ?
Alors, si vous venez à Brazza, vous venez à l'Institut français, il y aura une grande soirée à partir de 18h à la bougie avec accompagnement acoustique, trompette, percussion. Et les gagnants du concours de poésie liront leurs poèmes devant un public. Et on aura aussi le collectif de slameurs stylobliques qui viendra faire une lecture de texte autour de cette fameuse thématique « Aimons encore, aimons toujours ». Et enfin, on aura la restitution d'un atelier autour de la voix qui a été dispensé par l'artiste comorienne Nawal Mlanao toute la semaine à Brazzaville.
Formidable programme, merci Anne Daza, j'ai presque envie de prendre un avion.
Vous êtes le bienvenu en tout cas.
Merci beaucoup.
Je veux t'aimer de tous mes yeux, de toutes mes mains. aimer tous tes chagrins, toutes tes veilles et tous tes lendemains. Je veux t'aimer même si je sais que t'aimer n'est jamais assez. Je veux t'aimer au désespoir.
Jusqu'à ce que l'amour nous sépare, extrait du nouvel album de Marc Lavoine, ici en duo avec Virginie Ledoyen. Et le titre de l'album, c'est « Adulte jamais ». Bruno Luce, l'héroïne de votre roman, pourrait dire ça, « Adulte jamais » ?
Je pense qu'elle a envie de grandir quand même. D'ailleurs, elle prend des responsabilités d'adulte presque, parce qu'elle est victime d'un chantage et c'est elle qui décide d'aller trouver l'argent pour répondre à ça.
Alors, elle est victime d'un chantage, mais elle est d'abord victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, puisque le livre commence avec ça. Elle voit sur sa page Facebook, ou sur la page Facebook d'un gamin du collège, une photo porno, son visage et un sexe d'homme dans la bouche. C'est le fléau, les réseaux sociaux ?
Non, on peut pas dire ça, mais oui, je pense que par exemple pour les adolescents qui sont victimes de harcèlement à l'école, et bien évidemment avec les réseaux sociaux, ça se poursuit après.
Mais elle ne dit rien. Pourquoi elle ne dit rien ?
Elle dit rien parce que je crois que c'est un personnage qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide et qui veut s'en sortir par elle-même. Et donc, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle se fait justice par elle-même en allant à la rencontre de ce camarade de classe, Enzo, et en l'agressant, en lui arrachant un bout d'oreille.
Elle lui arrache un bout d'oreille, mais plus que ça, elle le mord et elle bouffe le bout d'oreille. C'est une ogresse, dites-vous. C'est une ogresse ?
C'est une gamine ogresse, c'est ce que je dis. Elle est entre les deux.
Parce qu'elle mord et avale le bout d'oreille, mais ce n'est pas la seule fois dans le roman que cela lui arrive. Donc, ce qu'on appelle prendre la vie à pleines dents, à minima.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour sauver la sienne qu'elle fait ça, puisque à chaque fois, dans les deux cas, elle est victime d'agression. Et elle répond par ça.
La diriez-vous désespérée ?
Non, au contraire, je dirais qu'elle est pleine d'espoir, puisque quelqu'un de désespéré va se laisser couler, va se laisser abattre, et elle, au contraire, elle va chercher des solutions tout le temps, tout au long du roman, c'est ce qu'elle fait, elle se bat contre des injustices.
Quel que soit le coût de ces solutions. Et même l'enfer, c'est pas grand-chose. Est-ce que ce titre, qui est le titre de votre roman, la résume, cette jeune Lucie ?
Alors, c'est un titre qui vient de La groupie du pianiste de Michel Berger. Et c'est un titre qui, à la base, fait plutôt référence à sa maman, à la mère de Lucie, Juliette, qui est une fan de variété française. Et donc, cette chanson résume une certaine période de sa vie.
Elle fait un blocage sur Michel Berger.
Elle fait une sorte de blocage sur Michel Berger qu'elle associe à la perte de l'homme de sa vie. Pas que, je veux dire, elle écoute Balavoine, elle écoute Taxi Girl, elle écoute beaucoup de chansons françaises des années 70 à 90.
Et donc, elle participe à un jeu télévisé qui s'appelle...
N'oubliez pas les paroles.
N'oubliez pas les paroles, et on va lui demander de se souvenir des paroles d'un certain nombre de chansons, et notamment de La groupie du pianiste, la chanson de Michel Berger. Et là, blanc.
Blanc, non pas qu'elle ne s'en souvienne pas, mais surtout qu'elle n'a pas envie de les prononcer. Parce qu'elle se rend compte que c'est un moment où elle est sur le devant de la scène, c'est difficile pour elle. Et c'est associé, comme je disais, à une période difficile de sa vie. Et donc elle fait tout simplement un blocage. Et donc elle n'y va pas.
Et elle n'ose pas, elle ne peut pas dire cette phrase, et même l'enfer, c'est pas grand-chose.
Et peut-être que pour elle, l'enfer, c'est quelque chose, contrairement à Lucie, pour reprendre votre question.
Donc, ce serait un titre qui signalerait davantage le ressenti de la mère Juliette que de la fille.
C'est un titre qui signale... la mère, parce que c'est sa chanson à elle, mais qui finalement collerait mieux à l'état d'esprit de Lucie, peut-être.
Alors vous dites qu'elle n'est pas désespérée, mais tout d'un coup je relis les notes que j'ai pu prendre et je tombe sur cette phrase: quand on n'attend rien, demain tient toujours ses promesses. C'est quand même une phrase assez désespérée.
Je ne suis pas certain, puisque... ne rien attendre, c'est aussi être délesté de tout le poids des choses. Et donc, c'est pouvoir se lancer à corps perdu dans des aventures.
Et elle croit à la fin du monde.
Elle croit à la fin du monde, oui. Ou en tout cas, il y a une sorte de jeu. Je ne sais pas si elle y croit vraiment, comme il y a beaucoup d'ados qui vont croire à des prédictions ou à des choses qu'ils vont lire sur Internet. Elle, en l'occurrence, elle croit, ou en tout cas, elle est attirée par la prédiction des Mayas. On est en 2012 et les Mayas ont prédit la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Et disons que ça fait une sorte de point de fuite pour elle.
Un avenir dans 200 jours. Alors, comme tous les jeunes de son âge, il est aussi question de sexe, ou du moins de fantasmes liés à la sexualité, comme l'a aussi dessiné puis filmé Riyad Satouf dans Les Beaux Gosses.
Bonjour, bonjour. C'est vous le jeune arabe gay qui laisse son numéro dans la cabine téléphonique pour se faire enculer ?
Vas-y, lâche-moi là, qui t'a dit d'entrer ?
Oh, il fait sa petite porcine en colère.
Là, tu dis que je suis chez moi, c'est pas qu'il leur t'arrive comme si c'était chez toi, vas-y, sors de chez moi.
Ouais, t'as qu'à avoir une meuf aussi, hein.
T'es bien content, on en a avec ta pute ?
Mais qu'est-ce qu'il me fait là ?
Tu pourrais avoir un minimum de respect pour ce que je fais quand même. Tu l'as niqué ?
Bah ouais, dans un buisson. Ambiance sadomaso, mon gars.
Sérieux ?
Non, t'es con, quoi.
Franchement, à notre âge, c'est fréquent, vous pourrez baiser, hein. Je n'ai plus des enfants.
Ouais, mais je la sens pas méga prête. Tu vois, c'est genre une sainte nitouche. Mais entre nous, c'est super sérieux, hein. On a parlé de faire des enfants et tout.
Ouais, mais ça, c'est pas qu'en roulant des pelles que ça arrive. Il faut mettre la saucisse, mon vieux.
À 13 ans, le langage est cru, c'est vrai dans le film de Satouf, c'est vrai aussi dans votre roman, Bruno Luce, et même l'enfer, c'est pas grand-chose. Vous avez... délibérément choisi une langue crue qui est la langue de vos personnages.
Je pense que c'est une langue quotidienne, c'est une langue qui est orale. Et donc oui, je n'allais pas masquer ce qui est la langue de tous les jours pour des ados.
Mais c'est votre langue de tous les jours ? Ou c'est la langue du personnage ?
C'est la langue du personnage. Une langue, c'est toujours afférent à un milieu, à des références, à un âge, etc.
Mais pour vous, cette langue est familière, ou vous avez travaillé à reconstituer la langue de ce personnage ? Parce que pour moi, qui suis un peu plus vieux, c'est le cas de le dire, j'ai l'impression qu'il faut être un peu aguerri au parler jeune.
Alors j'ai un peu triché, parce que le roman, comme je disais, se situe en 2012, et donc le parler de 2012 n'est pas tout à fait celui de 2022. Et en 2012, disons que j'avais 18 ans, et donc c'était un langage qui sonnait encore en moi, qui était encore familier.
Ça l'est moins aujourd'hui ?
Je pense que ça l'est moins aujourd'hui, oui, effectivement, je suis moins aux prises avec la langue des ados, même si je le vois sur les réseaux sociaux, la façon de s'exprimer, etc.
Est-ce que le verlan a toujours la cote, par exemple ?
Il y a du verlan, il y a des mots issus de la langue arabe, il y a énormément de choses. C'est une langue vivante, par définition. Et donc, qui dit langue vivante, dit enrichissement constant. C'est pour ça qu'il faut que... Il faut suivre, il faut que les dictionnaires suivent et inscrivent dans leur page les nouveaux mots. Il faut s'adapter aux usages.
Donc vous plaideriez pour que TEPU, par exemple, soit dans le dictionnaire de l'Académie française ?
Je ne sais pas si TEPU a particulièrement sa place, puisque c'est du verlan et donc on comprend. C'est presque transparent, si vous voulez. Mais il y a d'autres mots qui pourraient très bien avoir leur place.
Lesquels, par exemple ? Tiep. J'avais jamais entendu ça. Ça fait tiep.
C'est du verlan aussi. Pitié, tiep.
Et il n'y a pas guéchant.
Géchant.
Géchant, pardon. Géchant, pas guéchant.
C'est changé aussi.
C'est du verlan pur. Il y a aussi quand même des sortes de condensés qui sont très propres à l'oralité de cette génération. Il a trop cru, lui. C'est une phrase d'écrivain ou c'est une phrase entendue ?
C'est les deux, je pense. C'est quelque chose qu'on peut entendre, oui, souvent. Et c'est aussi quelque chose qui, là, s'inscrit dans le cadre d'un dialogue de roman. Et donc, oui, c'est une phrase de dialogue de roman.
Vous avez fait attention à l'équilibre entre une forme d'écriture classique, qui est celle qu'on attend quand on ouvre un roman, et justement cette proportion de paroles entendues, de paroles de génération.
Oui, je dois dire que c'était le plus gros travail que j'ai eu à faire sur ce roman, c'était ne pas exclure des lecteurs, peut-être plus âgés ou autres, qui sont pas au fait de cette langue et qui vont achoper par moment. Mais comme je disais, c'est avant tout de la musique, donc c'est pas grave si on achope par moment. En revanche, moi, mon travail, c'était quand même de faire en sorte que les gens ne soient pas largués tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'il y a des passages de récit qui sont plus proches de la prose poétique, on va dire. Même si, donc, écrit dans une langue plus littéraire, classique, on va dire. Même si elle est aussi chargée de passages d'oralité avec les pensées des personnages.
J'aime beaucoup cet échange entre le frère et la sœur dans votre roman, Brunolus. Tu sais, maman, elle a des phrases. Comme si toute phrase trop sophistiquée était soupçonnée d'être déconnectée de la vérité ou de la réalité pour Lucie, 13 ans, ou pour son frère, Sofiane. Tu sais, maman, elle a des phrases.
Juliette, la maman de Lucie et de Sofiane, c'est une personne qui est pas très âgée, hein. Elle a 40 ans, mais elle a aussi un autre langage. Et donc parfois il y a de l'incompréhension du fait de ce langage et parfois il y a de l'incompréhension du fait de non-dit.
Mais vous avez constaté, vous, en tant qu'écrivain ou journaliste, puisque c'est votre métier d'origine, ce décalage dans les paroles en fonction des générations et éventuellement cette perte de crédibilité de la parole des adultes pour les adolescents.
Je ne parlerai pas de perte de crédibilité. Je pense que la vraie richesse, c'est d'arriver à pouvoir dialoguer à n'importe quel niveau de langue, qu'on soit ado, adulte, peu importe. Se couper d'un des niveaux de langue, c'est se couper d'une partie du monde, puisque le monde s'écrit dans les mots. Et donc, oui, effectivement, quand on est journaliste, on va parler à tout type de personnes, issues de tout milieu, de tous âges, de tout genre, etc. Et donc, oui, on accède à des parlers différents.
Vous parliez de musique, Brunolus. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. C'est au milieu du roman, c'est une course au travers de la ville.
Née en l'air, Lucie ne court plus. Elle roule, pilote, gouverne. emmerde le clignotant, grille tous les feux, prend les sens interdits, réécrit le code du trottoir. Bolide du bitume, princesse de la haine. Elle fait des appels de phare avec ses paupières lourdes. La foule s'écarte sur son passage. On lui gueule « Gamine, petite conne, racaille !» Rien à foutre. Seule subsiste une traînée de boucles noires derrière elle. La vitesse l'emballe, sa balade prend des airs de voiture dans le ravin. Elle stationne près des bancs publics, peinture RAL 6005 du centre-ville, le fond de la cuvette. Cherche de nouveaux magasins où postuler. Juliette et elle n'ont pas rediscuté du chantage de Martin. Trop dangereux. Mais 1000 euros, ça se trouve. Lucie veut prendre soin de sa mère, ne rien avoir à se reprocher. Les LED bleus et rouges de l'enseigne Donner Kebab clignotent devant elle, buisson ardent. Elle a mangé plusieurs fois dans ce restaurant. Pourquoi ne pas tenter sa chance ici ? Elle s'approche, respire un bon coup devant la porte. Courage, elle entre.
Extrait de « Et même l'enfer, c'est pas grand-chose », votre premier roman, Bruno Luce. Et on peut dire que cette Lucie n'a pas froid aux yeux, qu'elle prend des risques. Vous la définissez comme une bagarreuse. Et là, on est vraiment à un tournant du roman où elle va se lancer dans une nouvelle recherche de solutions qui pourrait être assez difficile, voire tragique.
Oui, on est donc comme je disais, elle est victime de chantage et donc pour trouver les 1000 euros qui lui font défaut, elle se dit qu'elle va travailler dans des magasins, dans des restaurants en l'occurrence. Elle se rend dans ce kebab et elle rencontre Zaz qui est le vendeur de kebab. Elle cherche à travailler pour lui, mais il lui donne pas tout à fait le travail qu'elle aurait espéré.
Et c'est un travail un peu illégal, dirons-nous. Vivre est une prise de risque permanente, se dit-elle. Donc, ça dit bien son caractère de bagarreuse. Alors, un écrivain n'écrit pas toujours pour un public particulier ou un lecteur particulier. Mais qu'en est-il pour vous, quand vous avez écrit, conçu ce roman, premier roman, vous avez pensé à qui, à quel moment vous avez commencé à l'écrire ?
J'ai commencé à l'écrire il y a fort longtemps. J'ai commencé à l'écrire à la sortie du lycée, justement parce que cette langue était encore fraîche dans mon esprit. Et ça s'est poursuivi un petit peu au fil des années, donc entre 2012 et 2019, avec une période un peu plus dense vers 2018. Et je ne sais pas si je réfléchissais vraiment à un lecteur à qui ça plairait. Justement, j'avais envie de faire un roman qui soit accessible, qui porte l'oralité, une oralité de la jeunesse, mais qui soit accessible à tout un chacun.
Et vous pensez qu'un roman comme celui-ci, moi je pense que oui, hein, mais je voudrais avoir votre avis, peut amener des adolescents à la lecture ?
Je pense que pourquoi pas.
Il y a un effet miroir.
Oui. En tout cas, j'espère. Ce serait un grand honneur pour moi qu'il y ait des adolescents qui le lisent et qui trouvent ça intéressant, qui trouvent ça riche, qui aiment la façon dont je dépeins leur adolescence.
Et qui se disent, Lucie, c'est un peu moi.
Ah ben, Lucie, c'est un personnage. Moi, je trouve que c'est un personnage solaire, Lucie. J'aurais aimé être Lucie à l'adolescence.
Merci beaucoup, Bruno Luce. Et même l'enfer, c'est pas grand-chose, est édité chez Grasset. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Olivier Roux à la réalisation. Nous nous retrouvons demain avec un autre écrivain, une écrivaine. Du 20 au 23.